Simba, Nesong Tang, Mekombe, Ne Na Yang, Ne Kapje, Deva Chungus, Yopate, Tamje Jung, Karpo Geve, Sonam Le, Tupe Na, Tambe Chuji, Yadi.
That's all. Tilapter, Rivola. Tilapter,
Tilapter.
Alors, là, nous reprenons quelques-unes de ces instructions sur les qualités du Saint-Dharma en disant donc ces bonheurs temporaires même qui peuvent être éprouvés dans les états d'existence défavorables ou même états en lesquels on n'a pas le loisir de pratiquer le Dharma, eh bien ce bonheur-là, même s'il est infime ou temporaire, est aussi le résultat des actes bénéfiques et en ce sens une qualité aussi du
Saint-Dharma.
Non. Et que des êtres ayant commis donc de grands actes nuisibles puissent, leur esprit s'étant tourné vers le Dharma, devenir des saints honorés de tous, est une qualité du Saint-Dharma aussi. Voilà, ce qui est dit ici, c'est qu'en fait, il peut y avoir, il y a de nombreuses histoires d'ailleurs qui racontent la vie de ces grands accomplis, qui au départ ont une vie et où ils s'adonnent à des actes qui peuvent être très négatifs. Il peut y avoir des chasseurs, il peut y avoir des voleurs, mais il y a aussi des assassins, il y a toutes sortes d'êtres qui, ensuite rencontrant le Dharma, vont faire tout un chemin spirituel, purifiant leur voile négativité et devenir à leur tour de grands accomplis. Donc cela fait référence à ce genre de
choses.
Voilà, et là, c'est vraiment vu comme une de ces qualités du Saint-Dharma qui font que, justement, ces êtres qui, parfois, ont une grande renommée en tant qu'individus s'adonnant à ces actes négatifs, mais qui, rencontrant le Dharma, vont avoir une tout aussi grande renommée comme des saints accomplis. Et puis ici, en tibétain, donc littéralement, quand on dit Mikung Tsukdu Kurwe, c'est vraiment que tout à coup ils deviennent non seulement des êtres accomplis, mais des êtres de référence, c'est-à-dire vers lesquels on se tourne, sur lesquels on prend appui.
Voilà,
ensuite que des êtres, toujours un peu dans cette même idée, qui sont destinés par leurs actes, dans le sens qui sont conditionnés par leurs actes négatifs, et il réfléchit à souffrir dans des états d'existence défavorables, et bien que ces êtres puissent changer de nouveau en pratiquant le Dharma et en venir à réaliser des états de félicité et plus encore d'éprouver la félicité de la libération, c'est-à-dire de l'éveil, est aussi une qualité du Saint Dharma.
Tombe chula tepa tam tepa mam me patam tam mam gava tam mam chalung zamba tam tam la yon kungi yido onjin.
Ensuite, que l'on ait foi, aspiration, enthousiasme pour le Dharma, ou bien que l'on ne fasse qu'en détenir
les attributs.
Et que l'on en vienne à ainsi plaire à tous et que l'on soit honoré de tous, et bien de nouveau, c'est la qualité du Dharma qui rejaillit sur nous, et donc telle est la qualité du Dharma. Non, l'idée ici, c'est que bien sûr, soi-même, on peut avoir finalement que peu de qualités, mais l'on bénéficie ici des qualités même du Dharma, car finalement, d'une certaine façon, on le représente, d'où l'idée des attributs du Dharma, et donc, beaucoup auront simplement confiance, disons, en nous, du fait même que l'on représente ces qualités du Dharma, et nous deviendrons alors, le lieu de leurs offrandes, de leur vénération, etc. Le fait que bien que l'on ait abandonné toutes ses possessions, que l'on ait quitté son foyer pour devenir moine, mais dans le sens ici d'un renonçant ou d'une renonçante, que l'on se cache dans les retraites solitaires, donc comme un ermite, et que l'on puisse malgré tout trouver les moyens de subsistance en accord avec la pratique spirituelle, cela encore est une qualité du Dharma. Non, voilà, ici le terme en tibétain, dopé mbo, c'est vraiment tout ce qui se rattache aux possessions donc de la vie ordinaire. Ça peut être une maison, une famille, les liens, les activités, les biens, les richesses. Donc là, c'est vraiment le cas de figure d'un renonçant, d'une renonçante qui abandonne tout cela, qui décide de vivre donc dans le renoncement, et plus encore comme ermite, par exemple dans une grotte, qui même s'y cache, et qui donc là, vient des gens emplis encore une fois de foi pour le Dharma et pour le sens même de cette démarche, nous trouvent, vont faire des offrandes, vont nous apporter les moyens de subsistance qui permettent de mener cette existence et cette vie, et donc c'est là encore une qualité du Saint Dharma. Voilà, il conclut simplement en disant telles sont d'une manière brève, en bref, les 10 qualités du Saint Dharma. C'est ok? Un éclaircissement? Pas?
Non.
Ensuite, les 10 choses qui finalement ne sont que des mots ou que des façons de parler, que des noms. Non. Premièrement, la façon d'être, donc le fondement même de la nature de tout phénomène, ne pouvant être véritablement montré, eh bien, quand on parle de cela ainsi, en disant la base de toute chose, eh bien, ce n'est finalement qu'une façon de parler. Non. Le fait que le cheminement vers la réalisation, le chemin vers la réalisation, eh bien, ne comporte ni voyageur, ni voie parcourue, ni d'ailleurs, ni même cheminement, eh bien, quand on parle de cheminement, ce n'est en fait qu'une façon de parler. Non. Alors, clairement, dit Lama, il faut placer ça au niveau de la réalisation de la nature même des phénomènes, hein, où l'on réalise cela. Dans le même esprit, la nature essentielle de toute chose. Là, c'est bon. Là, on parle de Nelouk dans le sens de la disposition naturelle de l'esprit, et l'on dit ici, eh bien, du fait même qu'il n'y a rien qui ne puisse être vu, ni même quelqu'un qui voit, donc excluant la distinction entre observateur et objet observé, quand on parle de la réalisation de quelque chose, donc par rapport à cela, eh bien, encore une fois, donc de cette nature essentielle, ce n'est qu'une façon de parler. Là, c'est donc là l'idée que finalement ces catégories sont des catégories des représentations mentales. Quand on dit quelqu'un qui regarde, quelque chose qui est regardé et acte de regarder, cela sont des catégories. Les catégories dans le sens qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui se rapporte vraiment à cela. De la même manière, quand l'esprit demeure dans son état naturel, alors dans sa virginité, dans le sens de son état primordial, en quelque sorte, il n'y a ni méditant, de nouveau, il n'y a pas plus une méditation, et c'est pourquoi faire allusion à l'expérience méditative, par exemple, c'est de nouveau qu'une façon de parler. Et de même, quand on laisse l'esprit tel qu'il est, donc dans son, on pourrait dire, caractère propre, hein, manière d'en parler d'ailleurs, il n'y a plus de conduite à adopter, pas plus qu'il n'y a de sujet qui adopterait une conduite, et donc quand on parle là d'une conduite, eh bien ce n'est encore finalement qu'une façon de parler.
Ton la sungja sungje mepe tamsik mensam.
Et en vérité, donc il n'y a ni objet d'engagement, dans le sens de, par exemple, vœux dans lesquels on s'engagerait, pas plus qu'il n'y a quelqu'un qui s'y engage, et quand on parle là de lien initiatique ou de lien ou de vœux, ce n'est finalement encore une fois qu'une façon de parler.
Ton la somja somje mepe, tsuni sagja sagje sere, somja somja somje. Ton la somja somje mepe, tsuni mensoye sere.
Et de la même manière, en vérité, il n'y a rien qui ne soit regroupé quand on parle des accumulations. Hein, on parle comme s'il y avait quelque chose qui était accumulé par quelqu'un. Et donc, quand on parle ainsi d'accumulation, ce n'est encore une fois qu'une façon de parler. Et quand on parle des deux voiles, donc les voiles qui recouvrent la nature de l'esprit dont on doit a priori se défaire, eh bien, il n'y a rien à supprimer, et donc il n'y a pas vraiment de voile non plus, pas plus qu'il n'y a quelqu'un qui les supprime. Aussi, quand on en parle, eh bien, c'est une façon de parler. En vérité, il n'y a rien à abandonner, ni personne qui abandonne. Donc, le samsara, quand on en parle ainsi, ce n'est aussi finalement qu'une façon de parler.
Et
donc, En fait, il n'y a strictement rien à obtenir, ni personne qui obtient quoi que ce soit. Donc quand on parle du fruit, c'est-à-dire de la réalisation même ultime, eh bien ce n'est qu'une façon de parler.
Alors,
voilà, ça c'est les 10 façons de parler.
Descends.
C'est ok, ça va? Ah ben j'espère, ça va pas me poser plein de questions, non. Hein? Donc, Cathy dit, après ça, il ne faut pas les tuer en mouton, faisant référence à l'idée de celui qui entend que rien n'existe. Morang se gdure wala tene tan, kam gimide nashin re wala tene tena, luk sena tene senken yomare, luk yomare tene, nga tso tena nashin tene, te di tene tene tena nashin tene, mi kukpa de nashin tene tjena, dhige mare re wala.
Mare mare, kukpa de nashin tene, dhige mare tene, tan den rev top de wikija re wala.
Évidemment, il ne faudrait pas faire comme cette personne qui a mal compris, mais ici, nous parlons bien sûr, dit Lama, du fruit, réalisé, de la réalisation.
C'est donc que tu as bien croata, nyangeling, d'abagni, dans du reva.
Non. Oui, parce qu'il est vrai qu'on va parler d'un côté d'un samsara et de l'autre côté d'un nirvana, certes, mais en fait, eh bien, on pourrait dire que les deux se rassemblent.
Tu connais du reva, croata, c'est un canis, tombaris.
Non. Pourquoi? Parce que quand on parle du samsara, on en parle comme une chose, mais finalement, lui aussi, il est vacuité. Et quand on parle du nirvana, on parle de quoi? On parle aussi de la vacuité. Donc finalement, la seule distinction qui pourrait s'opérer entre les deux, c'est soit être pris par une perception illusoire, soit être libre d'une perception illusoire, c'est tout. Quand on dit vacuité, c'est quoi? C'est finalement que le corps du dharma, le corps de la vacuité.
Non.
Et si on sait ce qu'est ce fameux corps de vacuité, ce dharmakaya, ben on est un être éveillé, c'est la nature même des choses. Mais au départ, bien sûr, nous sommes là dans l'idée d'un je. On dit je, et puis on habite cette idée, et en le saisissant, ou en la saisissant, cette idée, cette identité. Et bien sûr, cela est le produit même de l'ignorance fondamentale. C'est ça l'ignorance fondamentale, c'est croire en cette fiction du je, mais il n'y a rien qui existe de la sorte.
Et puis finalement,
cela mène à une méprise, c'est ça la confusion, c'est-à-dire à saisir un jeu croyant qu'il existe alors que finalement il n'existe pas, ne voyant pas qu'à partir de cette confusion-là, eh bien, toutes les projections de l'esprit dans le sens de notre conscience ordinaire se manifestent, on va finir par prendre ces projections comme un autre qui existe en soi et réellement, et tout cela n'est qu'une fiction. Et donc, à partir de là, on s'installe dans la dualité. On s'installe dans l'idée solidifiée par nous qu'il y a donc un je et qu'il y a donc un autre, ou des autres évidemment, et donc on interagit dans cette idée de dualité. Et quand on parle à la fois d'attachement comme d'aversion, finalement, qui sont vraiment les deux faces d'une même pièce, eh bien, elles se développent à partir de cette perception duelle. C'est-à-dire, tout ce qui va se rapporter, en gros, évidemment, à soi, eh bien, va être objet d'attachement, on va le vivre ainsi. Et donc, ce que l'on va ne pas vouloir, par exemple, eh bien, est-ce qui forcément est de l'ordre de l'autre, eh bien, on va le rejeter.
Ça,
Et donc, quand on évoque là le voile de l'opacité mentale, dans le sens de l'ignorance fondamentale, c'est le fait que l'on ne reconnaît pas que notre véritable nature, la nature de notre esprit, est en fait le Bouddha, c'est-à-dire l'éveil, clairement, et que ne reconnaissons pas cette nature, et nous nous installons donc dans cette idée d'un jeu, qui va de pair avec l'idée d'un autre d'ailleurs, nous saisissons cela en s'y installant solidement, et donc à partir de là, eh bien, on va nourrir, renforcer ce voile d'ignorance fondamentale. Non. Et donc, à partir de là, on l'a évoqué ce matin très rapidement, mais quand on parle de la coproduction conditionnée, finalement, ce sont toutes les causes et conditions qui vont faire que vont se manifester tout ce qui est pour nous de l'ordre de la perception illusoire.
Da, mais pas là. Mais pas Marek-Pé.
Non. Donc, et d'ailleurs, quand on parle des voiles, c'est de cela dont on parle. C'est-à-dire, quand on parle du voile de l'ignorance fondamentale, c'est, on parle de cette fiction du jeu, en fait. Oui. Et donc, quand on parle des 12 facteurs interdépendants, cette fameuse coproduction conditionnée, eh bien, cela exprime notre mode de perception illusoire, en fait, ou confus, on pourrait dire aussi. A priori, il n'y a pas tellement besoin d'en parler, des 12 facteurs interdépendants, vous avez tous dû entendre ça souvent, non? Évidemment, pas. Je pense qu'il faut dire non, ou il faut dire oui. Non. Quand on tenait... Bien sûr. Ah, la question qui est posée, mais n'est-ce pas ce jeu illusoire qui aspire à l'éveil et qui veut sortir du cycle des existences? Et en tenant da chulpa di indu tenant da singendi te tarpa tobia ge da marebelo mola.
Ah.
Te da di da singendi tenant chulpa de rewa. Yene ente tenant tarpa tobia ge da marebelo mola.
Da singendi.
Rewa. Kaya sena pena nga tenant tarpa de rewa tenant chulpa. Da.
Ah. Mepa marik. Marik na korbala chomche ki jore, rik na tarpa tobje ki jore ba.
Non. Alors, on peut le tourner ainsi en disant, à partir du moment effectivement où l'on comprend que à la fois c'est la méprise du jeu qui nous maintient dans le cycle des existences, on comprend aussi que c'est l'absence de méprise du jeu qui nous libère du cycle des existences. C'est à la fois les deux. Donc voilà, et d'ailleurs, là, je pense que le lama va enchaîner sur les 12 facteurs interdépendants. Mais en reprenant cette notion, qui d'ailleurs, elle est à la base de ces 12 facteurs, en disant que donc, ce qui est aussi à l'origine du cycle des existences même, c'est l'ignorance fondamentale. Donc, cette ignorance, cette fiction du jeu.
Tenez,
non. À partir donc de cela, de cette ignorance fondamentale, on évoque ce qu'on appelle les formations karmiques, on pourrait dire.
Non.
Voilà. Donc, le premier de ces 12 facteurs interdépendants, c'est l'ignorance fondamentale. Deuxième, eh bien, ce sont justement, parfois on dit volition, mais donc on peut dire formation karmique, c'est-à-dire les tendances installées. À partir de là, on évoque les consciences ordinaires, de nouveau les consciences, hein, c'est-à-dire les consciences sensorielles, etc.
Non.
À partir de là, on évoque donc le quatrième de ces facteurs interdépendants, c'est-à-dire ce qui est appelé nom et forme, qui est en fait la constitution psychophysique de, par exemple, un individu. À partir de là, eh bien, s'enchaînent ce qu'on appelle les domaines d'extension des sens. C'est en fait les champs où se déploient les différentes consciences. C'est aussi ce qu'on peut appeler les différentes portes de connaissance, à travers lesquelles, portes, donc, l'on va appréhender les objets de connaissance. Non. Et à partir de là, sixième facteur interdépendant, co-émergent, eh bien, c'est ce qu'on appelle rekpa, c'est-à-dire le contact. Contact, par exemple, la conscience avec un objet. Ensuite, c'est tsorwa. Tsorwa, c'est la sensation ou la perception. Et à partir de la sensation, on parle le sepa, la soif, mais dans le sens de l'attrait.
Sepa, c'est là.
Deux pas.
Ouais. Deux pas, non. Deux pas, non.
Oui. Sepa, ça veut dire la soif, mais là, c'est vraiment au sens figuré, dans le sens l'attrait vers quelque chose, vouloir se saisir. Et d'ailleurs, logiquement, eh bien, le neuvième, c'est l'enpa. L'enpa, ça veut dire prendre.
Non.
Et le dixième, logiquement, à partir du fait de prendre, eh bien, l'idée du devenir. C'est-à-dire, mise en mouvement, hein, devenir dans ce sens. Et à partir de là, bah, logiquement, le devenir dit aussi la naissance. Voilà, et à partir de la naissance, eh bien, forcément, ce qui en découle, c'est-à-dire la vieillesse, mais aussi la mort, logique, aussi la souffrance dans le sens de l'existence conditionnée et donc les expériences de dukkha, hein, ce terme sanskrit qui englobe toutes les formes d'insatisfaction, de souffrance, etc. Et tout ce qui forcément, du coup, et ça va de pair, est déplaisant. Donc après, pour juste essayer de classer un peu ça, alors, il y a différentes présentations, hein, de cette coproduction conditionnée, mais on peut les présenter ensuite en disant que le premier, c'est-à-dire l'ignorance, le huitième, c'est-à-dire la soif, c'est-à-dire l'attrait, et le neuvième, c'est-à-dire le fait de prendre, c'est donc le premier, le huitième et le neuvième, appartiennent ou sont regroupés sous l'appellation des nyonmong, c'est-à-dire des perturbations mentales. Ce qui crée les perturbations mentales, évidemment, hein, ce qui les entraîne. Le deuxième, c'est-à-dire les formations karmiques, et le dixième, c'est donc le devenir, eh bien, appartiennent dans ce cas au karma, c'est-à-dire à tout ce qui est conditionnant. Oui. Donc les formations karmiques et le devenir. Et les sept restants, eh bien, font partie de l'expérience d'imperfection ou défectueuse qu'on appelle donc dukkha. Non. Voilà, donc comme on l'a vu, le premier, huitième, neuvième, c'est-à-dire ignorance, et puis soif, attrait et le fait de prendre, donc pour les émotions perturbatrices. Voilà, et puis avant on parlait du karma en parlant donc du deuxième et du dixième, c'est-à-dire des formations karmiques et de cette idée de devenir. On peut le voir aussi un peu, pour donner une image, c'est un peu comme un champ, c'est-à-dire le lieu de l'action en quelque sorte. Voilà, donc d'un côté donc ces émotions perturbatrices, d'autre part ce champ en fait, donc ce champ qui représente là le karma, c'est-à-dire tout ce qui va être conditionné et conditionnant. Et puis donc les consciences ordinaires et les, donc, tous les autres, c'est-à-dire sept en tout, eh bien, donc, participent à cette expérience défectueuse.
Non.
Non. On peut vraiment réutiliser cette image. Voilà, on peut utiliser cette image donc du champ, de l'arbre, des plantes, en disant que l'ignorance fondamentale, en fait, c'est un peu comme celui qui plante la graine dans le champ. Oui, le karma, donc dans ce cas-là, le champ, c'est-à-dire là où se produise l'acte. Et les consciences ordinaires étant la graine, si on utilise ces images.
C'est pas ça qu'on dit.
Non. Non. Et ce que l'on appellera l'attrait, eh bien, on peut l'illustrer, si on continue avec l'image, par l'eau ou par l'engrais qui va faire pousser la plante, etc.
Non.
Et puis ce qu'on appelle Mingzhu, c'est-à-dire le nom et la forme, c'est-à-dire en quelque sorte la manifestation de cet enchaînement, eh bien, on peut l'illustrer par le germe qui va sortir de terre. Et donc, les autres facteurs interdépendants, eh bien, seront le développement de cette plante, c'est-à-dire un tronc, des branches, des fleurs, des fruits, etc. Voilà, en gros.
Oui.
La soif, elle vient après la perception,
hein, non.
Alors, on n'a pas forcément que du désir par rapport à une chose dans la lavation. Donc la soif, c'est aussi toute l'émotion qu'on peut avoir par rapport à une perception. Ça peut être aussi la lavation.
Donc là, la question de Cathy, c'est de dire, donc si la soif vient après la perception, c'est pas... En même temps, on peut aussi avoir du désir, et, je veux dire, de l'aversion et pas forcément du désir pour une chose, en termes donc d'action à partir de la perception.
Donc,
hein.
La soif, c'est la saisie.
Donc. Oui, a priori. Oui. Donc la question, c'est la soif, c'est en fait, d'une certaine manière, de ce fait, c'est la saisie. Il y a un tel moment que c'est que tu es indu, tu es ta tsorwa, tan tsorwa, tsorwa la tenez. Dieu te ne sait pas, Ravana. Dieu te ne sait pas. Zimba na shirebe. Quand il s'en a tapé na.
C'est pas, c'est na dopa soupa.
Dopa soupa.
Non, dopa
non. Non. Oui.
Zimba, c'est na l'alinta pas non.
Oui, c'est le fait d'aller vers, c'est-à-dire l'attrait. Alors, l'attrait vers n'importe quel objet finalement. Hein, mais au départ, sensation, puis ensuite, ben, il y a vraiment cette idée de vouloir prendre et de prise.
Même si il y a aversion.
Et Shedang, il y a un tenetu par et voilà. Bon, là, c'est vrai qu'à ce moment-là, on ne parle pas d'aversion. Mais, bon. On n'en parle pas parce que finalement, on parle du désir comme illustration de ce mouvement. Parce que c'est une certaine manière parler du désir avant l'aversion. C'est-à-dire, c'est aussi, en fait, ça revient à ce qu'on a exprimé avant, Dilama, c'est-à-dire qu'à partir du jeu se développe, on pourrait dire, l'attachement primordial, d'une certaine manière, puis à l'égard de l'autre, alors, soit attraction, soit répulsion, mais la répulsion, elle se produit à l'extérieur de soi, et pas à l'égard de soi. Dans le sens où, très primairement, on pourrait dire, tout ce qui découle du jeu, c'est aller vers le sens du jeu. D'où l'idée de, donc, d'attachement dans le sens, tout ce qui est appréciation. Et tout ce que l'on va vouloir repousser, rejeter, crainte, etc., c'est projeté à l'extérieur, donc comme un autre. Hein, c'est dans ce sens. Mais dans le sens où ce mouvement de rejet procède au départ, voilà, d'une identification forte. Voilà, donc le lama dit, donc il n'y a rien à abandonner, il
n'y
a rien à obtenir. Et donc nous avons ainsi terminé les 10 choses qui ne sont que des façons de parler. On en était là.
Hein? Voilà,
puis après il y a les 10 choses qui sont félicités spontanées. Voilà, la nature de l'esprit de tous les êtres étant le corps de vacuité, c'est-à-dire la nature ultime de l'éveil, hein, donc bien sûr, eh bien, elle est aussi félicité spontanée.
Descends.
C'est ok?
Et
la base de tout phénomène étant, du point de vue de la vacuité, au-delà de tout point de référence, de nouveau, eh bien, elle est aussi félicité spontanée. Ensuite, la réalisation qui est libre de limitation, mais dans le sens qu'elle est libre, oui, libre de limitation et libre d'extrême, d'une certaine façon, c'est-à-dire qu'elle est au-delà de toute intellection dans le sens d'une représentation, eh bien, elle est aussi dépourvue d'une production d'un point de vue. C'est plus de l'ordre d'un point de vue, donc elle est aussi félicité spontanée. Bon, tout ça est forcément un peu abscon. Hein.
ta tam pie ta ryo pa yo pen ta ta cha ba me pen ta ta cha ju ra va ta ju se ta ta cha ba lo le de pa lo lo ju pa ta de pa ma la so lo de ge to pa lo pa la ye tong bu ko ro yin ba de ten de re se pa me pa la Tene te nga rong te yinba te yinba ngo xie na, ngo xie te tong to na se kriwa, tong ma to na te ong ma rwa, te ngo xie tong to na, tene churi tang, chak dong ka lo di yung gong ma res.
Alors en fait...
Churi chak dong ka tu pa, ta cha cha wa res.
Non. Là, on peut le comprendre, bien sûr, la lama reprend un peu chacun de ces termes. Quand on dit déjà « tadel », c'est-à-dire « livre de limite », ça veut dire qu'en fait, quand on parle là de limite, ça veut dire qu'on n'est ni pris par l'idée de quelque chose qui existe, mais on n'est pas non plus pris par l'idée de quelque chose qui n'existe pas. Parce que finalement, tout ça sont des représentations. Donc là, l'éveil dont on parle, il est au-delà de ces catégories, évidemment. On ne va pas dire que les phénomènes existent, pas plus qu'ils n'existent pas. Donc, on est libre de ces représentations, finalement, qui sont intellectuelles, hein, de toute manière, et donc d'une sorte de point de vue. Donc, du coup, dit Lama, ben, forcément, ça veut dire qu'on reconnaît ce qui est d'ores et déjà présent, c'est-à-dire la nature des phénomènes, même la nature des phénomènes, avant qu'on les ait saisis d'une manière ou d'une autre. Et donc, du coup, eh bien, disparaît aussi toute forme d'attachement possible, comme toute forme d'aversion possible. Donc, c'est la grande félicité.
Non.
Alors, bien sûr que tout doit se comprendre dans le contexte de ce qu'on appelle les voiles. Et les voiles, c'est quoi? C'est les empêchements qui nous empêchent donc de réaliser notre véritable nature. Et donc, c'est pour ça que l'on ne voit pas notre véritable nature. C'est à cause de ces voiles.
Non.
Et là, tout au fond, on pourrait dire, le premier grand voile que nous avons, c'est justement cette croyance, on pourrait dire, en la réalité d'un jeu. Et c'est vraiment un voile, le voile de l'ignorance. Et sur cette base-là, parce que nous croyons à cette fiction, eh bien, nous allons agir. Et donc, c'est pourquoi on va parler du voile du karma, du voile des conditionnements. Et donc, du coup, ben, forcément, le voile alors des émotions perturbatrices, c'est-à-dire toutes les afflictions mentales. Et donc, du coup aussi, et logiquement, le voile des tendances, c'est-à-dire des habitudes. Hein, les tendances, ce n'est pas autre chose que des habitudes mentales. Donc là, on évoque, dit Lama, les quatre grands voiles, c'est-à-dire les quatre grands obscurcissements qui nous empêchent de voir notre nature. Non. Donc pour donner une image, ici on parle d'une félicité spontanée, c'est-à-dire elle est spontanément présente, elle est naturellement présente, et on pourrait dire qu'elle est cachée au fond de ces voiles qui la recouvrent.
Non.
Il nous faut là utiliser vraiment une image. C'est l'image d'un joyau. Notre esprit éveillé, Bouddha, nature de Bouddha, est comme un joyau extraordinairement lumineux. Mais imaginez que l'on mette sur ce joyau lumineux Il produit donc de la lumière, ce joyau. Imaginez qu'on y mette des couches, mais pas juste quelques couches, des centaines, des milliers de couches de papier noir. Eh bien, évidemment, on ne va pas voir la lumière apparaître.
Tati, non, que, non, peut-être, non, que, tobia, que, tanda, là, ta, chelo, que, trakpa, trakpa, tupo, te, sofa, tru, lemba, mongbo, te, pa, reba, yen, te, tsoi, go, go, jiraba.
Et donc, n'est-ce pas, toute la démarche, et c'est là la particularité de la démarche, c'est que pour obtenir ce joyau, c'est pas qu'on obtient un joyau, c'est que simplement on se défait et on enlève toutes les couches sur ce joyau qui font que petit à petit on va le purifier, le nettoyer.
Tati, narok rongo shiya ke tonda la, sonje ke tene, jangju ke lam, ne, cheran so de lam ten yo, de lam tenen dro tam maro cheran so, ok, rongo re non shi, cheran so jiji re sum non shi sum garo wa.
Et là, vraiment, ça nous fait revenir aux paroles du Bouddha. Le Bouddha nous dit simplement, telle est votre nature. Et donc, pour atteindre cette nature, cet éveil, je vous présente la voie de l'éveil. Mais la voie de l'éveil, c'est la voie du retour vers ce joyau, en fait. Donc maintenant, ensuite, prendre ou pas ce chemin, ça, c'est le choix de chacun.
Non.
Donc ensuite, quand il enseigne, ben, il n'enseigne finalement rien d'autre que la voie des six vertus transcendantes qui sont le chemin. Et chacune de ces actions, alors vertu transcendante, c'est en même temps chaque fois un antidote. C'est-à-dire qu'au départ, nous sommes finalement accrochés à nos biens et nos possessions. Donc le premier enseignement, c'est le développement de la générosité. Alors, évidemment, quand on parle de générosité, ensuite, il y a toutes sortes de types de formes de générosité. Il y a beaucoup de choses à dire.
Non.
Et donc en fait, si là on veut résumer la chose, eh bien on peut s'appuyer sur ce qu'en dit Milarepa qui dit à partir du moment où en fait nous pouvons nous dire être totalement libres de toute forme d'avarice, mais dans le sens de retenir quelque chose, hein, dans ce sens-là, eh bien alors cela est l'essence même de la générosité.
Non.
Ensuite, eh bien, l'idée de conduite éthique ou de conduite.
Ta chujem te yo ta chikpik non non de jawe che na de songje ge de ne tikpa yi de pong ko re de ne ge ba yi de drop cho sa pong drop yi song ja wa ti choma ge ti de che na ti non chujem de yo re.
Donc cette notion de conduite, de nouveau, là c'est un immense sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire, mais on peut de nouveau revenir à cette parole très essentielle du Bouddha qui dit, eh bien, laissez de côté toute négativité, accomplissez toute vertu. On pourrait dire que en cette observation fondamentale se retrouve le cœur même de l'éthique.
Non.
Il y a toujours dans l'idée d'éthique l'idée d'engagement, dans le sens de s'en tenir à un comportement.
Non.
C'est tout l'ordre des promesses aussi, c'est-à-dire les promesses en termes de comportement, c'est-à-dire ce que nous abandonnons, mais aussi de ce que nous développons, aussi de notre activité pour le bien d'autrui, tout cela aussi est une éthique, évidemment. Voilà. Donc, évidemment, on peut en parler longuement, et puis il y a toutes sortes d'aspects à cela, mais pour l'exprimer de manière simple, cette idée de conduite, c'est vraiment, de nouveau, c'est vraiment ce choix d'un accomplissement et ce choix d'un abandon, finalement. Et ça veut dire, ben, finalement, abandonner tout ce qui sera négatif, car conduisant à la souffrance, évidemment, c'est le fondement. Et puis développer tout ce qui est positif, car donc c'est une vertu et menant au bonheur. Et là, c'est dès aussi du maître spirituel qui, ben, voilà, l'indiquera aussi, c'est ça sa fonction. Et puis nous, ensuite, capables de dire, ok, j'agis.
Tan, sombate, zopare.
Ensuite, la patience, évidemment.
Zopare, c'est une idée de chemin. Dra, donwa ge cholayon zoba koris.
Alors, passion sur tous les fronts, c'est-à-dire à l'égard des inimitiés.
Koron la ke tene mala no sem da nen sem jeya ke jeya de ko jong chenpo re na za chenpo ji re sam.
Mais qui s'accompagne de la compréhension, c'est-à-dire où nous savons que si telle personne bien nous vaut du mal, et néfaste, nocive, et bien c'est qu'elle est malade, c'est qu'elle est perturbée.
Pena quoi que nosem qui est donc t'es que quand on tient de là, on ouvre des chemins, les sons dans le jeu que Dieu tient, tiennent des ne tant que ça me dure, ça me tient là ya, tenez, l'un l'autre que quand on tient au courant que John que toi l'on a que nos bâtiments dans le samaré, ça me.
C'est la patience qui s'appuie sur cette compréhension et sur cette connaissance, qui sait que donc cet individu déjà met là en œuvre des attitudes qui ne peuvent pour lui n'apporter finalement que de la souffrance et des malheurs. Et donc, si cela est reconnu, nous n'allons pas en rajouter finalement, d'où l'idée que nous comprenons et donc que nous développons de la patience à l'égard de ce que l'on comprend.
Quand le jong qian bo de sang yo bo to la nga ge dan no bai ji na. Ni sa ma de ning ge sa ni ning ge ge yo ma to ke de dong yo me ji sa.
Non, donc évidemment, si on s'appuie sur cette compréhension, eh bien on va comprendre qu'il n'est pas question de vouloir lui nuire pour répondre à la nuisance qu'il produit, mais bien au contraire, il est question d'avoir de la compassion pour la situation dans laquelle il se trouve.
Dang a long ge chu ge wa ji jom na yong.
Et c'est patience aussi forcément dans le domaine de la pratique spirituelle. Combien il nous faut de patience?
Ah, le plus mon naïan d'abo, mais tenez, plus ni chayan d'abo, yon mana tsatana, c'est ton jana, ton.
Oui, toujours une raison de rendre les choses qui sont finalement pénibles. On a mal aux genoux, on est fatigué, on s'endort, on a trop chaud, on a trop froid. Voilà, bon, bah, ça veut dire aussi de la patience dans ce domaine, c'est-à-dire avoir de la patience à l'égard de ça.
On give l'aide de l'homme, de l'homme, de l'homme. Give l'aide de l'homme, tu give l'aide de l'homme, de l'homme, de l'homme, de l'homme. La
Et puis, c'est aussi de la patience, parce que même développer de la vertu, et d'autant plus quand cette vertu, elle est assez physique, finalement, construire un temple, c'est aussi une vertu, hein, donc ça ne se fait pas tout seul. Donc, faire des offrandes, n'importe, tout effort physique va supposer aussi de la patience dans cet accomplissement de la
vie.
Mais la patience, de nouveau, hein, là, elle s'appuie aussi sur la compréhension et la connaissance, parce que intimement nous savons que, bien sûr, nous parlons d'effort, mais c'est un effort qui n'a strictement rien à voir avec l'effort comme on l'envisage dans une activité ordinaire. Une activité ordinaire, finalement, c'est toujours un effort pour soi. Ici, c'est un effort qui, finalement, touche une collectivité, touche le bien d'autrui, touche une activité qui va au-delà de soi-même. Et tout cela est enseigné par le Bouddha, parce que c'est aussi la manifestation de la grande omniscience du Bouddha. Le Bouddha, on dira qu'il possède les 10 forces, c'est cette clarté des choses.
Tenez,
L'idée, c'est d'aller vers l'omniscience, bien sûr, mais nous sommes tous extraordinairement variés et différents, et donc il y a de multiples moyens qui seront nécessaires pour s'adresser à ces multiples façons d'être.
Gaché, c'est comme Dieu, 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 comme Dieu,
comme
Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme Dieu, comme 그 자바 지금 내가 지금 돈이 용 투사 거야 그 내가 용혈이.
Non, oui, il y a vraiment de multiples manières d'agir. Quand on parle par exemple de ces vertus même très physiques, finalement, eh bien, elles peuvent aussi s'adresser à des personnes qui n'auront pas beaucoup d'attrait pour la pratique méditative, l'accomplissement, qui auront certes peut-être une grande foi, une grande confiance en le dharma, les trois règles sublimes, mais pour ces personnes, eh bien, ce sera une activité physique vertueuse qui sera la manière d'agir.
Gaji gom la gava la gom gaji drop la gava la drop then so the gana gava no ye chu drop ya de la jinka yakpo no na lodo ke de wa no shi
non
yores
voilà
gari drop na drop ya yore
non voilà d'autres ce seront la pratique méditative d'autres les pratiques d'accomplissement quoi bref finalement ça veut dire qu'on est un peu comme dans un champ quoi c'est à dire qu'il y a toutes sortes de plantes et puis tout est possible et puis on peut tout faire pousser. Alors voilà, bon, ben bien sûr, mais tout ça, ça suppose encore une fois, toujours beaucoup quand même, souvent d'efforts, de difficultés. Donc bien sûr, cette qualité de patience, elle est constante. Et ensuite, quatrième de ces paramitas, eh bien, c'est évidemment tsundju, c'est-à-dire l'énergie, c'est-à-dire la diligence, le courage. On peut se poser la question, finalement, c'est quoi, là, le courage? Eh bien, en fait, la réponse de cela, c'est dire que l'essence du courage ou de l'énergie, c'est la joie. Et donc, vraiment, c'est la réjouissance, c'est la joie, parce que nous sommes heureux d'accomplir de la vertu. Mais c'est finalement très, très logique, parce qu'à partir du moment où nous avons du plaisir, où nous avons de la joie, eh bien, le fait d'accomplir une activité bénéfique, ben, ça ne nous demande aucun effort, on va le faire avec plaisir.
Voilà,
et puis si finalement on est là pris dans une activité, on le sait, quand on est pris dans une activité qu'on adore faire, eh bien on a juste envie d'arriver jusqu'au bout de cette activité. Et puis du coup, ben même on est prêt à réduire un peu notre sommeil parce que ben on a absolument envie d'obtenir le fruit.
Non,
on le voit avec les joueurs, hein. Les joueurs, c'est fascinant de voir ça. C'est-à-dire, il y a des joueurs de cartes, il y a des joueurs de dés, il y a des joueurs de tout ce qu'on veut. Mais quelqu'un qui adore jouer, c'est quelqu'un qui adore jouer. Donc, il est prêt à y passer la journée, et puis la nuit, et puis il dort peu, et puis il est complètement pris par son jeu, et puis il adore être dans ce jeu.
Il n'y
a aucun problème, hein. Il n'y a aucune difficulté, tellement ils ont de joie. Et ça, c'est vraiment le signe qu'il y a une très très grande joie prise au jeu. Donc, bien sûr, dans le domaine spirituel, eh bien, finalement, l'idée c'est de développer cette joie, c'est de la développer de manière à ce que eh bien, la pratique spirituelle devienne quelque chose de plaisant et donc fasse qu'il y a moins de difficultés à l'accomplir. Et donc du coup, c'est aussi ça qui va permettre de développer beaucoup d'énergie.
Et
Et donc, ce qui est dit, c'est que même si on n'a pas une extraordinaire connaissance, si par contre on a vraiment cette qualité d'énergie, de courage, eh bien, il est plus aisé d'obtenir la réalisation.
Non.
Et oui, bien sûr, et la caractéristique aussi de cette énergie, c'est le fait qu'on prend, on pourrait dire, nous en français, on dirait on prend à bras le corps, c'est-à-dire qu'on prend la chose tellement pour soi que du coup on est prêt à la mener jusqu'au bout. Donc naturellement, on va la mener jusqu'à son terme.
Non,
après, cinquième de ces paramitas, c'est la stabilité mentale. Et c'est en fait, eh bien, placer l'esprit dans autre chose, dans, on pourrait dire, la quiétude, le calme, dans autre chose que les agitations et les perturbations mentales. Donc évidemment, nous avons toutes sortes de phénomènes mentaux, de pensées, etc., d'agitation, et l'idée, c'est petit à petit de s'entraîner à simplement observer les sens, comme cela, des mouvements de l'esprit, des phénomènes mentaux, et puis et de rester dans cette contemplation. On peut dire que là, ce qu'on appelle l'absorption méditative et la stabilité mentale, c'est un synonyme. Dans le sens où l'esprit n'est pas, ou notre conscience, notre esprit n'est pas agité par les émotions
perturbées.
Oui, il y a vraiment... Non, dans l'idée d'absorption, il y a vraiment l'idée de miyowa en tibétain, ça veut dire qu'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il est vraiment ferme et stable.
Non,
ça c'est vraiment la racine du mot samadhi, c'est-à-dire tinge, zin, tinge, c'est vraiment ainsi fermement établi et qui ne bouge pas, et zin c'est vraiment maintenir, donc on maintient cette assise, on maintient cette stabilité. Voilà, et sixième paramita, c'est-à-dire la connaissance ou la sagesse.
Alors,
de nouveau, hein, là, évidemment, il y a toutes sortes de formes de connaissances et de sagesse, mais en gros, eh bien, il est question de la compréhension de la vacuité. Voilà. Donc, encore une fois, la grande bonté du Bouddha, finalement, et sa compassion extraordinaire, c'est vraiment de nous offrir ainsi une infinité de moyens à travers tous ces actes possibles. Et donc, qui sont des moyens, qui sont une voie des moyens, et qui vont nous permettre eh bien, de parvenir au terme de ce grand chemin. Et donc, eh bien, voilà, de tomber sur des instructions qui nous disent ce qu'on est en train de dire.
Oh.
Non, mais c'est vrai que bon, la situation dans laquelle on est, et c'est vraiment la situation des êtres ordinaires que nous sommes, c'est de pouvoir confondre tout le temps entre le médicament et la médecine, et le médicament et le poison, et de se tromper. C'est vrai que même quand on dit accomplir la vertu, certes, mais en même temps, il ne faut jamais oublier qu'on mentionne sans arrêt l'idée de l'écoute, de la réflexion, de la mise en œuvre. Il faut vraiment comprendre que ces trois termes se réfèrent à l'analyse. Donc ça veut dire analyser, donc ça veut dire réfléchir aussi avant d'accomplir, réfléchir sur la manière d'accomplir.
Non,
franchement, on peut donner des exemples très simples. Imaginez, vous vous promenez quelque part, vous voyez un fruit qui a l'air très beau et vous vous dites, bon, ah, super, je le prends, je le mange. Mais vous pouvez aussi tomber sur un fruit poison.
Ah, quoi, y a que ton dada, tenez, tanda tsum goguyori.
Donc là, c'est clair qu'il nous faut de la connaissance. On ne peut pas s'embarquer sans connaissance. D'où l'idée de l'écoute, d'où l'idée de la réflexion.
Il
y a des fleurs extraordinaires qui poussent dans les ronces. Oui, et si on veut se saisir de cette fleur parce qu'on la trouve très belle mais qu'on n'est pas du tout connaissant, c'est-à-dire qu'on est en fait complètement ignorant qu'il s'agit d'une ronce et puis on n'a pas du tout vu les épines, ben on y met la main et puis on se blesse la main. Oui, bien sûr que la fleur est très belle, mais l'épine est dangereuse. Donc voilà, c'est vrai que quand on évoque ces trois sagesses, la sagesse de la réflexion, ou plutôt d'abord de l'écoute, de la réflexion et de la méditation, ou de la mise en œuvre, mais ça veut dire se servir de ces trois sagesses, développer ces trois sagesses. Donc voilà.
Oui.
On voit souvent sur la question de la différence entre
Shira
et Yeshi.
Alors la question, c'est la différence, oui, entre Shira et Yeshi, qui sont des termes techniques, mais qu'on pourrait traduire par d'un côté sagesse, de l'autre côté sagesse primordiale. Mimambo tene tapena Shira tan Yeshi qui kepar tene kare yore. Tiken mambo yore rola.
Shira sana ta Shira tela.
Non. Alors, shirap, on peut aussi le traduire par connaissance, d'ailleurs. Connaissance, sagesse, d'ailleurs, dans le sens où déjà, ben, on pourrait dire des connaissances ou des sagesses ordinaires, hein, comme d'ailleurs on l'emploie en général, mais aussi, eh bien, des sagesses ou des connaissances particulières. Ça, c'est déjà pour shirap.
Tout
ce que l'on appelle les cinq sciences font partie, par exemple, de, en tout cas, les quatre premières font partie de ce qu'on appelle les connaissances ordinaire, qu'on parle de connaissances ordinaires, et là, bien sûr, ce sont des catégories classiques, mais qui recouvrent tout le champ du connaissable, c'est-à-dire l'art médical, l'art des techniques, l'art de la linguistique ou grammaire. Voilà, ce type de connaissances, c'est aussi chez là. La logique aussi.
Toute la
connaissance scientifique est de ce domaine-là, qui est tout à fait remarquable d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils peuvent savoir, par exemple, sous terre, s'il y a des cailloux, quel type de cailloux, puis en plus, pouvoir dater, voilà, ce genre de choses. Donc voilà, ça, c'est les connaissances qu'ils ont. C'est aussi, par exemple, en regardant une montagne, par exemple, là, la montagne, pouvoir se dire, donc, si elle a cette forme, derrière, ça peut être comme ça. C'est la connaissance des choses, on pourrait dire.
Oui,
bien sûr, et c'est aussi tout le domaine, par exemple, de l'archéologie. La Lama prend l'exemple de certaines découvertes et recherches qui ont été faites, ben, par exemple, en l'occurrence, par des archéologues chinois, mais n'importe, mais où ils ont découvert donc, des vestiges archéologiques qui font partie de l'histoire du bouddhisme, comme par exemple à Rajgir, en disant, ben, là, à tel endroit, il faut creuser, ils creusent, ils trouvent des anciens monastères, etc. Tout cela fait partie du domaine des connaissances. Mais c'est vrai que là, à ce moment-là, quand ils font les fouilles, hein, les vieux Indiens qui vivent là, ils n'en savent rien du tout de ce qu'il y a dessous.
C'est une forêt.
Oui, c'est même une forêt, il n'y a même pas d'humains qui vivent là. Hein. C'est juste de la forêt, il y a des animaux, c'est tout.
Non.
Voilà, ensuite, bien sûr, tout ce qu'on pourrait dire, la linguistique, la grammaire.
Non,
tout ce qui est domaine bah, des langues.
Non. Zorekpa,
eh bien, c'est toutes les technologies. Alors là, toutes les choses extraordinairement merveilleuses qu'on est capable de faire aujourd'hui.
Zorekpa, c'est mingi kore.
Et Zorekpa, qui est l'art médical. Oui, tout cela, c'est des shirap, c'est-à-dire des shirap dans le sens de connaissances. On peut dire des sagesses ordinaires, mais dans le sens des connaissances ordinaires. Alors, on va employer le terme de sagesse primordiale, c'est-à-dire yishi. Dès lors, ça se réfère à la connaissance de la nature même de l'esprit.
Non,
on en a parlé en fait à un moment donné dans le texte où c'est juste pas seulement de la connaissance, mais on accède à la connaissance primordiale.
Là, c'est dans
donc la question c'est la sixième des six paramitas, c'est donc Yeshe ou Sherab. Ça dépend de ce qu'on réalise. C'est-à-dire que si vraiment on réalise la sixième paramita, alors ça devient yeshe, c'est-à-dire ça devient vraiment la sagesse primordiale. Et si on a une connaissance de la sagesse primordiale, c'est shirap. Non, c'est juste qu'on fait toujours la différence entre l'entendement, dans le sens de la compréhension, et la réalisation, tout le temps. Koa, donc pour dire la compréhension, c'est, il y a là un petit dicton que dit Lama, c'est semblable à l'imitation. Donc il y a toujours quelque chose où semblable à, c'est une similitude. Alors c'est pour ça qu'en général, quand on parle de la réalisation, la Lama donne aussi cette phrase qui est une phrase classique où on dit elle est semblable à l'espace. Dans ce que l'on veut dire par là, c'est qu'une réalisation a un caractère inaltérable, elle ne change pas. Mais là, ça vraiment, c'est quelque chose qu'on observe bien dans le domaine de la pratique méditative. Quand on s'adonne à la pratique de Shiné Flaktong, donc Shamatha Vipassana, il y a toutes sortes d'expériences qui vont s'élever en l'esprit, vraiment toutes sortes. Oui, et ça, c'est encore une fois des expériences. C'est l'expérience de vacuité, par exemple. On a l'impression de la vacuité. C'est l'impression de la clarté, donc l'expérience de la clarté. C'est on a l'expérience de la félicité. Mais c'est l'expérience aussi du mal-être à l'intérieur d'une pratique méditative, c'est-à-dire l'impression que rien ne va. L'impression qu'on n'arrive pas à méditer, etc. C'est aussi une expérience.
son gawa cheya da nyam yapo mare samne te toba saya yo mare.
Et c'est pour ça que c'est très important d'arriver à savoir que c'est des expériences, parce que justement, il n'est pas question, quand ce sont des expériences, eh bien de vouloir soit s'y accrocher en pensant qu'elles sont extraordinairement bien, soit s'affliger en pensant que c'est très mal.
Non,
c'est pour ça que... C'est pour ça que Lama cite cette fameuse phrase qui nous dit que toutes les expériences, on l'a dit l'autre jour, elles sont semblables aux nuées, c'est-à-dire qu'elles sont semblables aux nuages, elles sont semblables au brouillard, tout ça sont des phénomènes qui changent. Oui, vraiment, de nouveau, il y a cette instruction qui nous dit bien que pour un yogi, une yogini, eh bien, tout peut se manifester. Il y a vraiment une infinité de possibilités. Tout peut
apparaître.
Mais en même temps, tout cela sont des signes de la pratique. Mais en même temps, l'autre face de cette affaire, c'est que si on les saisit, eh bien, ça peut, et qu'on veut absolument interagir, c'est-à-dire garder quelque chose ou rejeter quelque chose, ça devient des obstacles. C'est ce que les grands maîtres du passé nous disent dans les instructions. Oui, c'est comme ça. Voilà, donc vous avez maintenant compris, je pense, comment la félicité spontanée se manifeste, non? Au bout du chemin, donc, hein, c'était ça l'idée.
Tenez, il a tchawa mepe, nyamion la sonreva.
Non.
Il a tchawa mepe, nyamion la, mepe, tu pas mepe, deva tchimbos, je te veux sonre.
Voilà, donc là, pour prendre la suivante, l'expérience en laquelle. Donc l'expérience forcément intérieure et méditative, évidemment, où il n'y a plus aucune action du mental étant, donc cette expérience dépourvue de toutes les productions que sont les intentions, qui sont aussi de l'ordre mental, eh bien, quand cette expérience, elle est libre de tout ça, eh bien, c'est félicité spontanée. Ensuite, eh bien, dans ce non-agir, dans le sens où on est libre de la volonté de produire en acte. Mais on est aussi libre de vouloir rechercher cet état où on est libre de vouloir produire en acte. Eh bien, là, quand l'esprit ne cherche plus à saisir quelque chose qui se manifeste en lui, sous-entendu, ni veut se débarrasser de quelque chose qui se manifeste, eh bien, cela est alors félicité spontanée.
Oh, tenez, non, c'est tamché. Que somme-t-il ? On l'a dit, le mandé, ben, à toba top sardé.
Non. Non. Là, ici, dit Lama, bah, ça signifie que là, Lama évoque ce qu'on appelle en tibétain Nansi. Et Nansi, ça veut dire la manifestation du devenir, c'est-à-dire aussi tout le règne du possible, finalement, et qui se manifeste. Et quand on a vraiment compris, dans le sens de vraiment réaliser, et pas juste un entendement, quand on a vraiment réalisé que tout cela est vraiment illusoire, parce que libre d'une nature propre, eh bien, il n'y a plus d'interaction dans le sens où il n'y a plus volonté de s'en saisir ou volonté de le rejeter. Et là, bien sûr, on est en train de parler de la réalisation du
Mahamudra. kusum ki gale gale mandepe na cha tele chudo me ben chimpo sekdo wa
non voilà et puis c'est ça le mahamudra puis si on veut dire que qu'est-ce que
kusum ki chuko donc kusum ki gale mandepe na cha lo wa cha cha sero wa
non
chimpo zen tele chudo chuba me ben na tene chimpo sekdo wa
non. Et si on veut dire ce qu'est le Mahamudra, alors là, pour reprendre le terme tibétain, où on dit Chagya Chenpo, Chagya c'est le mudra, et pour dire mudra c'est le geste symbolique, pour dire là, le mudra dont il est question, c'est-à-dire finalement que tout est reconnu comme les trois corps, c'est-à-dire en fait dans leur dimension ultime, manifestation de l'éveil en quelque sorte, et Chenpo pour dire qu'il n'y a rien au-delà de cela qui se manifeste en cette nature.
On dit, on dit,
c'est vraiment de ce, c'est de ça dont parle cette instruction, parce que Chadel, c'est vraiment libre d'une volonté d'action, mais de se le mettre dans le sens qu'on ne la recherche pas. C'est-à-dire, il n'y a plus cette idée de vouloir s'établir dans quelque chose, ou même de vouloir s'établir dans une absence d'action. Et pourtant, c'est cela la position, ou c'est cela l'action, que d'être libre de cela. Et là, au sein de cela qui est difficile à décrire, évidemment, eh bien, il n'y a plus de langdol, c'est-à-dire il n'y a plus ni vouloir prendre quelque chose, ni vouloir rejeter quelque chose, en fait.
Oui, tout ce qui est, que l'ongola, c'est vrai.
Non.
L'ongola, qui est ici.
Et en gros, la malade, il y a un peu de yéché, il y
a allez, on va là.
Là, ça, non.
Voilà,
puis là on arrive à Yeshe, finalement la sagesse primordiale. Donc le corps de
l'action.
Non. Là, ce dont il est question dans cette instruction, c'est ce qu'on appelle Chögyi Ying, c'est-à-dire le Dharmata, c'est-à-dire la sphère même de la nature des phénomènes, c'est-à-dire en fait ce qu'ils sont dans leur dimension, hein, la dimension même de la nature des phénomènes, et la sagesse primordiale, les deux sont complètement indifférenciés. Et donc, vu qu'il n'y a plus de production d'esprit, où il n'y a plus donc d'un côté un sujet, de l'autre côté un objet qui est saisi, c'est félicité spontanée.
Là, on parle.
Là, on utilise un terme de nouveau technique, mais qui dit ça, c'est sunzin. Et sunzin, c'est d'un côté quelqu'un qui saisit, de l'autre côté quelque chose qui saisit. Ça fait référence à l'esprit qui saisit un objet. Donc à ce moment-là, on est libre de ça. Et donc, c'est félicité spontanée.
Ta, tout ce que l'oncola, c'est.
Non.
L'oncola, c'est pour Dieu.
Ensuite, le corps de jouissance, donc Sambhogakaya, ça c'est son terme, ou ton terme technique, qui est la compassion finalement naturelle, c'est-à-dire non engendrée, c'est-à-dire elle n'est pas conceptualisée, elle est naturellement produite. Eh bien, elle est, vu qu'elle est dépourvue des productions que sont les changements, naissance et mort par exemple, eh bien dans ce cas-là, eh bien elle est félicité spontanée. Voilà, là on parle du corps de jouissance.
Voilà. chula long cho chung, ti nyanga chung ke magupe se, yag kanyang end the chuji zon the mas joyata, yang kobe chuji, mangin the joya, the tuba the travena, the ne long cho sopokos.
Là, ici, donc, là, m'a donné une définition. Voilà, donne une définition de ce qu'on appelle le corps de jouissance, qui est toujours un peu abscon, mais en fait, ça traduit là vraiment un état de réalisation, dit-il, où, eh bien, en fait, l'on comprend, on pourrait dire, l'on peut jouir sans en être entaché. On peut jouir, d'où l'idée du corps de jouissance, c'est-à-dire qu'on peut jouir sans en être entaché, par les phénomènes du samsara et du nirvana. Ce que l'on veut dire par là, c'est que finalement, il n'y a plus d'un côté un samsara et de l'autre côté un nirvana. On se rend compte que, en fait, cela est d'une saveur identique, unique, et l'on jouit de la manifestation, mais sans en être entaché, c'est-à-dire sans être entaché du fait même de se l'approprier ou de la saisir. Donc il n'y a pas, dit Lama, non plus d'un côté une péjoration du samsara et de l'autre côté une volonté d'amélioration d'un nirvana. On est libre même, voilà.
Tenez, tout le monde est chocolat, sans doute.
Là, ça.
Chocolat. Ni non que. Togala ni non dijeje tu pa mepe deva kimbozo jitobe son.
Ensuite pour le corps d'émanation, et là ici, eh bien, de nouveau, compassion naturelle s'élevant d'elle-même, dépourvue de production de l'esprit que sont les impulsions, c'est-à-dire de nouveau les notions qui voudraient nous faire développer la compassion, donc duel, dualiste, eh bien elle est encore une fois félicité spontanée.
Tani tanda zoku ni se gendo wa zoku ni se na longjo zoku kota zoku la zoku se gendo wa.
Quand on parle ici des deux corps formels, c'est une façon de parler donc des corps d'émanation qui se manifestent, voilà, et puis des corps de jouissance, de dimension de l'éveil.
Tati kuni de tuigete zoku ni tuyongri.
Et en fait, deux manifestations de l'éveil qui, comme son nom l'indique, se manifestent à partir du dharmakaya, c'est-à-dire du corps de vacuité. D'ailleurs, quand on parle des corps d'émanation, il y a aussi différents types de corps d'émanation. Il peut y avoir ce qu'on appelle les corps d'émanation sublimes, il peut y avoir des corps d'émanation dans le sens d'une renaissance pour un être, il peut y avoir aussi corps d'émanation dans le sens, par exemple, pourquoi pas, d'une technique.
Non.
Quand on parle du Bouddha Shakyamuni, dans un certain sens, on en parle comme l'émanation sublime, c'est-à-dire comme une émanation de l'activité éveillée.
La sopata de semi sauce, zoxotor, drepada, kiva tokus, mela mei zoxotor, tundola, tundoka zoxo, nyala, nyaka zoxotor, la sopa, rebella, rebelka zoxotor, batabo.
Non. Et quand on parle de corps d'émanation de naissance, ou par la naissance, ou sous forme de naissance, eh bien, c'est le fait que cette activité éveillée, elle va pouvoir se manifester sous toutes les formes dans tous les mondes. Il peut y avoir des poissons pour les poissons qui manifestent ainsi l'activité éveillée. Il peut y avoir des tortues pour les tortues. Il peut y avoir n'importe quel animal pour évidemment des biches pour les biches, etc. Donc, toute forme de manifestation possible. Donc, vraiment, l'idée clé, c'est que cette activité éveillée se manifeste pour répondre à des besoins très spécifiques des formes d'existence particulières.
Ta zotu kuse.
Non.
Zotu kuse na ta danga na kunja andrawo, tonka andrawo, jyoti andrawo, tsatsa andrawo.
Et puis zotu kuse, c'est-à-dire c'est en fait l'émanation, alors je disais avant, de technique dans le sens qui permet de fabriquer. Par exemple, une statue peut être vue comme une émanation aussi, une tanka, c'est-à-dire une peinture, peut aussi être une émanation de cette activité. Un stupa, des tsatsa, des petits stupas miniatures.
Donc,
bon. un mantra qu'on graverait sur une pierre, ben pareil, ça peut aussi être une émanation. Non, ce sont des émanations. Alors on peut se poser la question pourquoi on parle de cela comme une émanation, mais parce qu'en fait, ils deviennent support à des activités. C'est-à-dire tout à coup, on peut éprouver quelque chose, ou alors on peut circumambuler autour de quelque chose qu'on va considérer comme, dirait-on,
sacré.
Et donc, une forme, n'importe, qui serait ainsi consacrée par un rite, par un geste, et puis ensuite, donc, elle devient support de notre déférence, de notre vénération, eh bien, du fait de cela, eh bien, elle va devenir support de notre activité vertueuse. Par exemple, si vous allez au Tibet, vous allez dans de nombreux lieux où on va vous dire, là, il y a une statue qu'on appelle Songjong. Songjong, ça veut dire c'est une statue qui a
Songjong
parlé.
Songjong,
elle a parlé. Elle a parlé. Par exemple, il y a une histoire comme ça avec le Jiuo de Lhasa. Voilà, il y a, c'est une histoire là d'un monsieur qui venait du Kongpo et qui s'appelait Ben. Et ça devait être un parent de Machik.
Donc lui,
il avait entendu parler du Jowo, donc la fameuse statue de Lhasa, et puis pour lui, le Jowo c'était quelqu'un, c'était une personne. Donc il rentre dans le Jokang à Lhasa, hein, qui est le temple le plus vénéré du Tibet, et puis il entre, il fait des prosternations dans Et là, il y a, logique, toutes sortes de frondes de lumière, c'est-à-dire de lampes à beurre qui brûlent devant le Jowo, qui sont offertes. Et puis il y a aussi des tolmas, c'est-à-dire des offrandes qui sont faites, en général constituées de pâtes. Et il voit le Jowo, il le trouve beau. Et il se dit, ouais, ça doit être donc, il voit les tolmas, il doit, ça doit être le repas pour le Jowo. Et puis il voit les lampes à beurre. Alors attention, la lampe à beurre au Tibet, ça peut être conséquent. Hein. Donc il y a plusieurs flammes dedans, puis il y a le beurre qui reste fondu du fait qu'il brûle. Alors il se dit, ça c'est peut-être un moyen pour garder le beurre liquide, alors qu'on est dans un pays où il peut vite figer. Donc il prend une tolma. Et puis il agite un peu le beurre parce que c'est meilleur avec du beurre. Et puis il mange la torma. Puis il regarde le Jowo, puis il mange pas le Jowo. Donc il reprend la torma, il rebrasse dans le beurre, il mange, il regarde. Il dit rien. Donc il reprend la torma, il rebrasse dans le beurre et puis il mange. Et il regarde. Non, il ne dit rien, il est toujours là, souriant, assis, tranquille. Et donc, Gompo Ben, il se dit, c'est franchement extraordinaire. Je mange une torma, une deuxième fois, première fois il sourit, la deuxième fois il sourit toujours, la troisième fois il sourit toujours. Ça, c'est vraiment un bon lama. Mais alors, par contre, son repas, c'est pas terrible.
Non.
Donc il s'adresse au Jowo, puis il lui dit, écoutez, Jowo, franchement, je vous invite chez moi, parce que chez moi, on fait de la bonne nourriture, pas comme ici, à Lhasa. Donc chez moi, on fait une viande de porc super bonne, et puis une bonne bière d'orge. Venez chez moi, je vous donnerai vraiment de la bonne viande et du bon orge. Bonne bière. Oui, venez chez moi, dès que vous arrivez chez moi, je vous fais un bon repas.
Puis il
lui dit, mais écoutez, vu que je suis là, je vais en profiter pour faire un peu des circumambulations autour de vous, mais si vous permettez, hein, je pose mes chaussures, vous me les gardez, hein. J'enlève ces vieilles godasses, on peut s'imaginer, et puis il les pose sur les genoux du Joe.
D'accord. Quand je suis de connaître les mecs, pas de la son longue gagne de son goût de ma yoga.
Non, et donc sur ces entrefaites, donc vient le ce qu'on pourrait appeler le sacristain, le gardien du dieu, et puis il arrive, et puis il voit ces infâmes chaussures posées sur le dos, puis il dit, mais c'est pas possible, qui a osé mettre ces vieilles chaussures?
Tenez, tu vois que tes maillots, mal combombés. Non.
Et à ce moment-là, le Diogo parle. Et il parle au sacristain, au gardien du Diogo, et il lui dit, non, ne touche pas, ce sont les chaussures de Gombo Ben. Je dois les garder. Voilà. Et l'histoire raconte qu'en ces circonstances, eh bien, le Diogo a parlé.
Non.
Donc, l'homme retourne chez lui, il arrive au Kompo, et puis il raconte l'histoire, évidemment, à sa femme qu'il a rencontré un être extraordinaire qui s'appelle le Diogo, qui en plus, il l'a invité à venir chez lui. Donc, il lui dit, dorénavant, sois vraiment attentive, parce qu'il est possible qu'il débarque un de ces jours.
Non.
Alors, l'histoire raconte qu'un jour, elle part à la rivière, et puis, arrivée au bord de la rivière, tout à coup, elle entend un tintement dans la rivière, puis elle voit une espèce de statue, comme une statue qui arrive, dorée, qui arrive dans la rivière. Non. Et donc, elle appelle son homme qui lui dit, hey, dis donc, viens voir, il y a un truc dans la rivière. Et lui, il arrive au bord de la rivière, il dit, ouh, mais c'est mon lama qui est en train d'être emporté par l'eau. Donc, il plonge dans l'eau, il attrape le Jowo, et puis l'histoire raconte que comme ça, il a invité le Jowo.
Non.
Et donc, à ce moment-là, il y a un rocher près de la rivière, et puis l'histoire raconte qu'à cet instant, le Dieu dit, eh bien, je vais me fondre dans cette pierre, je n'entrerai pas dans cette maison d'humain, hein, d'une certaine manière. Il reste là, il fond dans cette pierre, et dès lors, eh bien, c'est devenu un lieu de pèlerinage, et l'on raconte que il y a donc deux autres Jowo, un Jowo de roche et un Jowo d'eau, et qu'ils sont ainsi dans cette région du Kompo. Et l'histoire raconte que ces deux Jowo sont aussi précieux que le Jowo de Lhasa.
Non.
Il y a plein d'histoires comme ça. Il y a aussi une histoire à Tsulpu avec du temps de Tsum Kenpa, et bien une statue qui a été érigée. En fait, donc c'était une statue qui représentait en fait Tsum Kenpa, et donc la discussion se fait une fois que la statue est faite. Certains disant ah ben ça lui ressemble, d'autres qui disent ouf, ça lui ressemble pas tellement, si ça lui ressemble quoi, etc. Et l'histoire raconte eh bien, que cette fois-ci, la statue, elle a dit, je lui ressemble. Et puis en tibétain, pour dire semblable à moi, on dit nada, donc c'est très court. Et à partir de là, eh bien, on l'a appelé la statue nadama, c'est-à-dire celle qui a un jour dit qu'il était semblable à lui.
Tenez, il y a long. Non.
Alors à Tsetang aussi, près de Tsetang, il y a un monastère, Nyanang, hein, et puis là il y a aussi une Tara, une statue de Tara qui parle, qui a parlé, disons.
Tsetang, il y a un monastère, Nyanang.
Et il y a aussi. Il y a vraiment des grandes statues de Tara. Il y a des 21 statues de Tara, mais de taille humaine, carrément. Et en fait, la statue de Tara qui a parlé, elle est près de la porte, en fait. Et en fait, l'histoire raconte que quand on a installé ces 21 grandes statues de Tara, ben, cette petite statue toute simple qui était là à l'entrée, ben, en fait, elle disait « Entrez, entrez. » Voilà, donc ça c'est... Voilà, donc il y a 21 statues de Tara, de vraiment de bonne taille, hein, elles font plus d'un mètre chacune, donc elles sont quasi de taille humaine, et puis il y a cette petite statue qui est la statue considérée à avoir parlé. Voilà, donc a priori c'est cela que c'est la dixième quand on parle de Zotulku, c'est-à-dire des choses faites par la main de l'homme, évidemment, vu que ce sont des statues, mais bien sûr l'interaction là d'une puissante foi, d'une puissante dévotion, et qui certainement fait qu'à un moment donné, eh bien, des prodiges peuvent se produire. À travers ça, c'est aussi dire que eh bien, des gestes tels que faire des petites tsatsa qui sont ces stupas miniatures, construire des statues, tout cela sont aussi des actes spirituels. Graver un mantra, dessiner un mantra sur une pierre, c'est aussi un bienfait. Imprimer un mantra sur du tissu aussi. Alors on va dire par exemple par rapport à ces mantras imprimés que l'idée c'est qu'ils soient touchés par le vent. L'idée c'est qu'ensuite ce vent touche des êtres qui seront ainsi par le simple effet du contact, ils seront à leur manière libérés. Il y a par exemple, on parlait de tsatsa, il y a une histoire avec trois hommes et une tsatsa. Voilà, et donc les tsatsa, c'est vraiment pas plus grand que ça, hein. C'est petit, et c'est de la terre, hein, tout simplement de l'argile qui est mise dans un moule. Et donc, un jour, une personne se dit, quoi, entend dire qu'il est vraiment très bénéfique de faire de tels tsatsa, c'est une pratique en soi d'ailleurs, donc il fait une tsatsa, et il la pose dans un endroit, eh bien, dans un bel endroit, il la pose là. Et arrive un deuxième personnage, et cette deuxième personne voit la tsatsa ainsi posée sur le sol, et puis il dit, ah, mais c'est beau, une tsatsa, c'est bien, mais bon, en même temps, là, elle est là, elle risque d'être détruite par les intempéries, ça va pas, faut pas la placer là. Donc il regarde à gauche, à droite, il voit une vieille chaussure qui traîne dans un coin, il se dit, ben voilà, c'est parfait. Il prend la vieille chaussure, et il installe la vieille chaussure au-dessus de la tsatsa pour la protéger de la pluie, du soleil, etc. Et il y a une troisième personne qui arrive et qui voit cette tsatsa recouverte de cette chaussure, vieille chaussure, pas franchement très propre. Et il se dit, mais c'est hallucinant d'avoir mis une chaussure aussi sale sur une tsatsa aussi sainte. Donc, il prend la chaussure, évidemment, et il jette la chaussure au loin.
Tanda, met son cas que ça, ça, t'es le cupa, t'es pas, y'a, t'es, t'es, mais ça me sent qu'il y avait l'autre Dieu aussi.
Et l'histoire raconte, bien sûr, que chacun ayant développé une attitude absolument pure à l'égard de cette tsatsa, eh bien, les trois réalisent l'éveil.
Tandis, tsatsa, de gars, on a payé, 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 on a
Non, voilà, donc. Si des bienfaits sont tels pour une petite tsatsa, qu'en est-il évidemment pour un stupa que l'on construirait, évidemment. Oui, et puis donc finalement l'idée c'est qu'à partir de ces supports, eh bien on peut placer des actes finalement. C'est-à-dire que circumambuler est une manière de rendre hommage avec cette foi, cette confiance qu'on peut placer dans ces différents supports. Mais il suffirait d'ailleurs de se réjouir de leur existence ou de leur présence pour que déjà nous développions ainsi ces qualités.
Non.
Oui, déjà, si on pense qu'il y a déjà des bienfaits du seul fait de circumambuler d'une manière naturelle autour d'un stupa, d'autant plus si on le fait avec conscience.
Non.
Ah ben ça fait penser à une autre histoire, décidément. Là, on enchaîne. Donc, il y a une autre histoire, c'est l'histoire d'un stupa qui était comme ça un peu fissuré. Et puis, il y avait un cochon dans les parages. Et puis, le cochon, ben, en fait, il était souvent enduit, comme en général, les cochons sont enduits de boue. Et puis, le cochon, ben, finalement, il aimait bien se frotter contre le stupa pour se gratter, là. Et puis, à force de se gratter, ben, il a déposé la boue qui était collée sur sa peau. Il l'a déposée et donc, justement, cette fente, il a colmaté, en fait, donc, la fente du stupa. L'histoire raconte qu'il a aussi obtenu une existence favorable grâce à ça.
Non,
mais il y a aussi une autre histoire avec un cochon. Et c'est l'histoire où un jour, eh bien, il y avait un cochon qui était poursuivi par un chien. Sur le même stupa peut-être, parce que du coup, eh bien, il a fait des tours de stupa poursuivi par le chien.
Non.
Et on raconte aussi et que ce cochon, peut-être c'était un autre, que ce cochon, eh ben, quand il est mort, il a pris une renaissance, évidemment, comme un déva. Voilà. Et toutes ces histoires, finalement, à leur manière, elles racontent cette infinité des activités possibles et qui sont toutes conçues pour le bien d'autrui et sous des formes totalement diverses et variées. Ensuite, les enseignements, le cycle de démonstration du Dharma étant dépourvu des productions que sont les caractéristiques des vues égocentriques, eh bien, sont félicités spontanées. L'activité éveillée qu'est la compassion sans mesure, n'étant limitée ni par le temps ni par l'espace, elle est félicitée spontanée. Et ce sont les 10 choses qui sont félicitées spontanées. Voilà, et on va arrêter là pour ce soir.